La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet également, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77, si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 si c'est en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978, et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
Leçon 7, du 6 au 12 novembre. La loi et la grâce. Samedi après-midi. Étude de la semaine. Ézéchiel 28, versets 15 et 16. Deutéronome 4, versets 44. Romains 3, versets 20. Deutéronome 10, versets 1 à 15. Deutéronome 5, versets 6 à 22. Deutéronome 9, versets 1 à 6. Versets à mémoriser. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Galates 2, verset 21. Les chrétiens de la plupart des dénominations parlent de la loi et de la grâce et comprennent le lien entre les deux. La loi est le standard de sainteté et de justice de Dieu. Et la violation de cette loi s'appelle le péché. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Et du fait que nous avons tous transgressé cette loi, ce n'est que la grâce de Dieu qui peut nous sauver. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché. Galates 3, verset 22. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Bien sûr, il y a ce léger détail du sabbat du septième jour dans cette loi. Mais pour diverses raisons, de nombreux chrétiens sont déterminés, du moins pour l'instant, à rejeter le sabbat du septième jour, en inventant toutes sortes d'excuses bien faibles pour justifier leur rejet. Mais c'est un tout autre sujet. Même s'il est exprimé de différentes manières et dans différents scénarios, le thème de la loi et la grâce se trouve dans toute la Bible, y compris dans le livre du Deutéronome. Oui, le Deutéronome présente aussi le lien entre loi et grâce, mais dans un contexte tout à fait unique. Étudiez la leçon de cette semaine pour le samedi 13 novembre. Dimanche 7 novembre. La loi au ciel. Dieu est un Dieu d'amour, et l'amour est le principe conducteur de son caractère et le fondement de son gouvernement. Et comme Dieu veut que nous l'aimions en retour, il nous a créés en tant que créatures morales, avec une liberté morale, la liberté inhérente à l'amour. La loi morale se trouve au cœur de l'idée de la liberté morale. Les particules subatomiques, la houle, les kangourous, bien que suivant dans une certaine mesure la loi naturelle, ne suivent pas ou n'ont pas besoin de la loi morale. Ce n'est le cas que des êtres moraux, et c'est pourquoi même au ciel, Dieu a une loi morale pour les anges. Lisez Ézéchiel 28, versets 15 et 16, qui parle de la chute de Lucifer au ciel. L'iniquité a été trouvée chez lui, et il a également péché. Que nous révèle l'emploi de ces termes ici, dans un contexte céleste sur l'existence de la loi morale au ciel? Iniquité et péché sont des termes que l'on emploie ici sur terre pour parler de nous. Mais la Bible emploie les termes pour ce qui est arrivé au ciel, dans une autre partie de la création elle-même. Cela devrait nous apprendre quelque chose sur ce qui existe au ciel ainsi que sur terre. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». En quoi cette même idée existe-t-elle peut-être également, du moins en principe au ciel, là où vivent des êtres moraux, les anges? Comme l'explique Ellen G. White, la volonté de Dieu est résumée dans les préceptes de sa sainte loi, dont les principes régissent le ciel. Les anges eux-mêmes n'ont pas de plus chère ambition que connaître la volonté de Dieu. Et c'est en accomplissant qu'ils exercent le plus noblement toutes leurs facultés. Heureux ceux qui, page 90. Le ciel, la terre, peu importe. Si Dieu a des êtres moraux, il a une loi morale pour les gouverner. Et la transgression de cette loi au ciel ou sur la terre, c'est le péché. Pourquoi l'idée d'une loi morale est-elle inséparable de l'idée d'être moraux? Sans cette loi, qu'est-ce qui définirait ce qui est moral et ce qui ne l'est pas? Lundi 8 novembre. La loi dans le Deutéronome. La nation hébreu aux abords de Canaan, le peuple élu de Dieu, va enfin hériter du pays que Dieu a promis. Et comme nous l'avons vu, le Deutéronome constitue les dernières instructions de Moïse aux Hébreux avant qu'ils ne prennent le pays. Et parmi ces instructions, il y avait l'ordre d'obéir. Lisez les textes suivants. Quelle idée est exprimée à maintes reprises et pourquoi est-ce important pour le peuple? Deutéronome 4, verset 44. Deutéronome 17, verset 19. Deutéronome 28, verset 58. Deutéronome 30, verset 10. Deutéronome 31, verset 12. Deutéronome 32, verset 46. Deutéronome 33, verset 2. Même une lecture superficielle du livre du Deutéronome révèle combien l'obéissance à la loi était cruciale pour la nation israélite. Au sens strict du terme, il s'agissait de l'obligation d'alliance du peuple de Dieu. Dieu avait tant fait pour eux et allait continuer à faire tant de choses pour eux, des choses qu'ils ne pouvaient faire eux-mêmes et qu'ils ne méritaient pas à la base. Et c'est cela la grâce, Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Et ce qu'il demandait en retour, eh bien, c'était qu'ils obéissent à sa loi. C'est la même chose aujourd'hui. La grâce de Dieu nous sauve. En dehors des œuvres de la loi, nous estimons que l'être humain est justifié par la foi, en dehors des œuvres de la loi. Romains 3, verset 28. Et notre réponse, c'est d'obéir à la loi. Cependant, nous obéissons à la loi, non dans une vaine tentative d'être sauvés par la loi. Personne, en effet, ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi, car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Mais parce que c'est la conséquence du salut qui nous a été offert en tant que générosité, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean 14, verset 15. On pourrait voir le Deutéronome comme une grande parabole sur la grâce et la loi. Par la grâce, Dieu nous rachète en faisant pour nous ce que nous ne pouvions faire nous-mêmes, pas plus qu'Israël n'aurait pu s'échapper de l'Égypte par ses propres moyens. Et en réponse, nous menons par la foi une vie d'obéissance à Dieu et à sa loi. Depuis la chute d'Adam et jusqu'à ceux qui vivront le temps de détresse et la mort de la bête, ce peuple, décrit comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, La relation entre Dieu et son peuple de l'Alliance a toujours été une relation de loi et de grâce. La grâce de Dieu nous pardonne pour avoir transgressé la loi. Et la grâce de Dieu nous permet également d'obéir à sa loi. Une obéissance qui naît de notre relation d'alliance avec lui. Comment éviter le piège qui consiste à devenir légaliste en obéissant à la loi? Mardi 9 novembre, les sceptiques, ceux qui cherchent des raisons de rejeter la Bible, renvoient souvent à certaines paroles pleines de fermeté de la part de Dieu qui apparaissent dans l'Ancien Testament. L'idée, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu dur, vindicatif et mesquin, notamment par opposition à Jésus. Ce n'est pas nouveau comme argument, mais il est tout aussi fallacieux aujourd'hui qu'il l'était la première fois qu'il a été mis en avant, il y a bien des siècles. L'Ancien Testament n'a de cesse de présenter le Seigneur comme aimant son peuple, Israël, et ne voulant que le meilleur pour lui. Et cet amour se manifeste avec force dans le livre du Deutéronome. Lisez Deutéronome 10, versets 1 à 15. Quel est le contexte immédiat de ces versets? Et que nous enseignent-ils sur ce que Dieu pensait de son peuple, même après leur péché? Que nous enseignent-ils sur la grâce? Les textes respirent la grâce et l'amour de Dieu pour Israël. Remarquez en particulier les versets 12 et 13. Il s'agit en réalité d'une seule phrase, longue, une question, et la question est simple. Moi, le Seigneur, qu'est-ce que je te demande si ce n'est de suivre toutes mes voies, de m'aimer, de me servir et de garder mes prescriptions pour ton bien? Dans tout ce verset, les mots en hébreu « pour toi »,« tu », »,« ton » sont au singulier. Dieu s'adressait naturellement à la nation dans son ensemble. Mais à quoi serviraient ces paroles si le peuple, chacun individuellement, n'y obéit pas? Le Seigneur s'adressait à Israël en tant que nation, en privé, à chacun individuellement. Impossible également d'oublier la fin du verset 13. Observe ces choses, c'est-à-dire pour ton bien. En d'autres termes, Dieu ordonne au peuple d'obéir car c'est dans son intérêt. Dieu les a faits. Dieu les soutient. Dieu sait ce qui est bon et il veut ce qu'il y a de mieux pour eux. L'obéissance à sa loi, à ses 10 commandements, ne peut que travailler à leur avantage. On compare souvent la loi à une barrière, à un mur de protection. Et en restant entre ses limites, ceux qui la suivent sont protégés d'un tas de maux qui, dans le cas contraire, s'abattraient sur eux et les détruiraient. En bref, par amour pour son peuple, Dieu leur a donné sa loi et l'obéissance à cette loi est pour leur bien. De quelle manière voit-on personnellement combien il est bien dans notre intérêt d'obéir à la loi? Mercredi 10 novembre, esclaves en Égypte. Dans le livre du Deutéronome, il y a un thème qui apparaît et réapparaît sans cesse, celui du Seigneur rachetant son peuple Israël du pays d'Égypte. À maintes reprises, il leur est rappelé ce que Dieu a fait pour eux, d'une main forte, d'un bras étendu, par une grandeur terreur, avec des signes et des prodiges. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Deutéronome 26, verset 8. Voir également Deutéronome 16, verset 1 à 6. Tout au long de l'Ancien Testament, en fait, l'histoire de l'Exode est citée en exemple de la grande délivrance de Dieu par sa grâce après l'esclavage et l'oppression en Égypte. Car je t'ai fait monter d'Égypte, je t'ai libéré de la maison des esclaves. Michée 6, verset 4. Cette idée apparaît même dans le Nouveau Testament, avec l'Exode par la grande puissance de Dieu comme symbole du salut par la foi en Christ. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui tentèrent d'en faire autant furent engloutis. Hébreux 11, verset 29. Voir également 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Lisez Deutéronome 5, versets 6 à 22, où Moïse répète la loi, les 10 commandements, la clause fondatrice de leur alliance avec Yahvé. Remarquez le 4e commandement et sa raison d'être. Qu'a-t-il dit ici qui révèle la réalité de la loi et la grâce? Moïse répète le commandement de base, qui est de se reposer le sabbat du 7e jour, mais il insiste davantage encore. Bien qu'il ait été écrit dans la pierre dans Exode, Moïse enveloppe ici ce qui leur a déjà été annoncé. Observez le sabbat, non pas seulement comme un mémorial de la création, mais comme un mémorial de la rédemption après l'Égypte. La grâce de Dieu les a sauvés de l'Égypte et leur a offert le repos de leurs œuvres. Hébreux 4, versets 1 à 5. Maintenant, en réponse à la grâce que Dieu leur a accordée, ils avaient besoin d'étendre cette grâce aux autres. Dans ce cas, ainsi, le sabbat du 7e jour devient non seulement un symbole puissant de la création, mais un symbole puissant de la rédemption et de la grâce. Tous dans la maisonnée, et pas seulement les enfants, mais les domestiques, les animaux et même les étrangers parmi eux, peuvent se reposer. Le sabbat étend aux autres la grâce donnée aux Juifs, y compris à ceux qui ne font pas partie du peuple de l'Alliance. Et ce sabbat se trouve au cœur de la loi de Dieu. Ce que Dieu a fait pour eux, ils doivent le faire pour les autres. C'est aussi simple que cela. Lisez Matthieu 18, versets 21 à 35. En quoi le principe de cette parabole est-il révélé dans le commandement du sabbat, notamment tel qu'il est souligné dans le Deutéronome? Jeudi 11 novembre, pas à cause de ta justice. Au centre de la religion chrétienne, et de toute religion biblique en réalité, on trouve le grand thème de la justification par la foi seule. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Romains 4, verset 3. Ellen G. White l'a exprimé de manière suivante dans une citation bien connue. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il est impuissant à faire pour lui-même. Quand les hommes voient leur propre insignifiance, ils sont prêts à être revêtus de justice de Christ. Incontestablement, quand on considère qui est Dieu et combien il est saint par opposition à qui nous sommes et à combien nous sommes impies devant lui, il faudrait un extraordinaire acte de grâce pour nous sauver. Et c'est précisément ce qui est arrivé. Cet acte de grâce a eu lieu à la croix, où l'innocent Christ est mort pour les péchés des coupables. Gardez ce contexte à l'esprit et lisez Deutéronome 9, versets 1 à 6. Que dit Moïse au peuple qui révèle de manière prodigieuse la réalité de la grâce de Dieu pour les indignes? En quoi ce qui est arrivé ici reflète-t-il le principe de justification par la foi? Si l'on pouvait résumer l'enseignement de Paul sur l'Évangile, ce serait peut-être avec cette expression tirée de Deutéronome 9, verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que Dieu va te sauver. Il va plutôt le faire à cause des promesses de l'Évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. Promesses qui nous sont faites non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. De Timothée 1er verset 9, voir également Tite 1er verset 2. Si ces promesses nous ont été faites avant les temps éternels, elles ne pouvaient en aucun cas venir de nos œuvres, car nous n'existions même pas avant les temps éternels, et nous n'avions donc aucune œuvre. En bref, malgré vos fautes, vos imperfections, vos nuques raides, le Seigneur va faire cette œuvre merveilleuse pour vous et en vous. Par conséquent, le Seigneur vous ordonne de lui obéir ainsi qu'à ses lois. La promesse a déjà été donnée et tenue. Vos œuvres, votre obéissance, même si elles étaient suffisamment bonnes, ce qu'elles ne sont pas, ne sont pas le moyen de votre salut. Elles en sont plutôt le résultat. Le Seigneur vous a sauvé par grâce. Maintenant, avec sa loi écrite dans votre cœur et son esprit qui vous porte, allez et obéissez à sa loi. Vendredi 12 novembre, pour aller plus loin. L'ennemi de Christ, qui s'est rebellé contre la loi de Dieu au ciel, travaille tel un général habile et expérimenté de tout son pouvoir, en sortant d'un stratagème après l'autre, plein de tromperies pour rendre sans effet la loi de Dieu, elle qui est le seul véritable détecteur du péché et le standard en matière de justice. Le cosmos est constellé de 2000 milliards de galaxies, 2000 milliards de galaxies composées chacune de 100 milliards d'étoiles. C'est un principe de vie, ce qui conçoit et crée quelque chose est nécessairement plus grand que ce qu'il a conçu et créé, et il le transcende. Picasso est plus grand qu'une œuvre d'art signée Picasso, et il la transcende. Le Dieu qui a conçu et créé le cosmos doit être plus grand que le cosmos et doit aussi le transcender. En gardant cette idée à l'esprit, réfléchissez au texte suivant. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Jean 1er, versets 1 à 3. C'est-à-dire que le Dieu qui a créé tout ce qui existe, les milliards d'étoiles et tout le reste, a fait quoi? Il a rétréci pour devenir un bébé humain. Il a vécu une vie sans péché. Puis, il est mort sur la croix, emportant la sanction et emportant le prix pour nos péchés et tout le mal qui existe, afin que nous ayons la promesse de la vie éternelle. Cette grande vérité est devant nous, la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ sur la croix. Et qu'est-ce que Dieu demande de nous en retour? Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. Ecclésiaste 12, verset 13. À méditer. En classe, examinez la question posée à la fin de l'étude de lundi sur la manière dont ceux qui croient en l'observation de la loi de Dieu, les 10 commandements, y compris le 4e, peuvent éviter de tomber dans les pièges subtils du légalisme. En quoi l'obéissance, même une obéissance stricte et déterminée, est-elle différente du légalisme? Et comment faire la différence entre les deux? Partagez des histoires que vous avez entendues ou vécues sur les terribles conséquences qu'ont subies des personnes qui avaient transgressé les 10 commandements. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur combien la loi reflète en réalité l'amour de Dieu pour nous? Pourquoi la croix devrait-elle nous montrer combien il est futile d'essayer de gagner notre entrée au ciel?
Connais-tu l'IEBC?
Non, c'est quoi?
C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
Moi, j'ai suivi le cours Au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous faites le 1 712 432 9 978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 Damary-les-Lys, Cedex. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.